Washington Irving, comte de l'Alhambra, les deux statues. Dans un des vastes appartements de l'Alhambra vivait autrefois un petit homme jovial nommé Lope Sanchez qui travaillait dans les jardins et chantait toute la journée comme une cigale. C'était l'âme, la vie de la forteresse. Quand son ouvrage était fini, il s'asseyait sur l'un des bancs de pierre de l'esplanade, jouait de la guitare et chantait de longues romances sur le Cid, Bernard de Carpio, Fernand de Pulgar et d'autres héros espagnols pour amuser les vieux soldats. Ou bien il jouait des airs plus gais pour faire danser des boleros et des fandangos aux jeunes filles. Comme la plupart des petits hommes, Lope Sanchez avait pris une grande et forte femme qui l'aurait presque mis dans sa poche. Mais, contre l'usage des pauvres gens, au lieu d'avoir une dizaine d'enfants, il n'en avait qu'un. C'était une petite fille aux yeux noirs, âgée d'environ 12 ans, que l'on nommait Sanchica. Elle était aussi gaie que son père, dont elle faisait les délices, jouait autour de lui quand il travaillait dans les jardins, dansait au son de sa guitare quand il se reposait à l'ombre, et courait, tel qu'un jeune faon, à travers les bosquets, les avenues et les salles dévastées de l'Alhambra. C'était la veille de la fête du bienheureux Saint-Jean, et le soir, toute la population de l'Alhambra, hommes, femmes, enfants, monta sur le mont du soleil qui domine le Generalife pour faire la veillée de la Miette sur son sommet uni. La lune était claire et brillante. Toutes les montagnes paraissaient d'un gris argenté. La ville avec ses dômes et ses clochers gisait dans l'ombre au-dessous et la Vega ressemblait à une terre de féerie, éclairée en certaines places par des feux que l'on voyait tout à coup briller au milieu de ses bosquets. Sur la plus haute cime de la colline, on avait allumé un grand feu, suivant un ancien usage qui vient des morts. La soirée se passa gaiement à danser au son de la guitare de Lope Sanchez, qui n'était jamais plus content que lorsqu'il assistait à quelque fête semblable. Tant que la danse continua, la petite Sanchica et ses compagnes s'amusèrent à jouer parmi les ruines d'un fort mauresque qui couronne la montagne. En ramassant des cailloux dans un fossé, elle trouva une petite main précieusement sculptée en jet, avec les doigts fermés et le pouce fortement serré sur eux. Enchantée de sa trouvaille, la petite fille courut la montrer à sa mère. À l'instant, 1000 conjectures, 1000 remarques furent faites sur cet objet, que plusieurs regardaient avec une certaine défiance superstitieuse. « Jetez cela, disait l'un, cela vient des morts, et vous pouvez être bien sûr qu'il y a quelque sorcellerie, quelque maléfice là-dessous. »« Point du tout, disait un autre, il vaut mieux le porter aux bijoutiers du Zacatine, qui en donneront quelque chose. » Au milieu de la discussion, un vieil invalide qui avait servi en Afrique et dont le visage était aussi foncé que celui d'un mort s'avança. Il examina la main avec l'air d'un connaisseur. « J'ai vu des choses semblables, dit-il, chez les barbaresques. Elles ont de grandes vertus pour garantir du mauvais œil et de toute espèce de sortilèges et d'enchantements. « Je vous fais mon compliment, ami Sanchez. C'est un signe de bonheur pour votre enfant. » À ces mots, la femme de Lope Sanchez attacha la petite main de G à un ruban et le passa au cou de sa fille. La vue de ce talisman rappela toutes ces traditions merveilleuses sur les morts dont le peuple espagnol fait ses délices. On oublia la danse. On se forma en groupe, assis à terre, pour écouter les vieux contes légués par les ancêtres. Quelques-uns de ces contes roulaient sur les merveilles de la montagne même sur laquelle ils se trouvaient. C'est en effet un des endroits les plus renommés pour les fantômes et les phénomènes surnaturels. Une vieille femme, à la mine de Bohémienne, décrivit longuement le palais souterrain où Boabdil et sa cour sont enchantés, dans le cœur de la montagne. « Parmi ces ruines que vous voyez, » dit-elle, en montrant des restes de murailles et des monceaux de terre sur une partie éloignée du plateau. Parmi ces ruines est un puits noir et profond qui pénètre jusqu'au centre du mont. Quand on me donnerait tout l'argent de Grenade, je ne voudrais pas regarder au fond de ce puits. Une fois, un pauvre homme de l'Alhambra, qui gardait des chèvres dans les environs, descendit dans ce trou pour en tirer un chevreau qui s'y était jeté. Il en sortit pâle et hagard et parlait de choses si étranges qu'il avait vues là que chacun le croyait fou. Il ne fit que rabâcher pendant plusieurs jours sur les fantômes morts qui l'avaient poursuivi dans la caverne, et l'on ne pouvait le persuader de mener encore ses chèvres sur la montagne. Il le fit cependant, mais le pauvre homme n'en revint jamais. Les voisins trouvèrent ses chèvres paissant au milieu des ruines, et son chapeau et son manteau à côté du puits. Et l'on n'entendit plus parler de lui. » La petite Sanchica écoutait cette histoire avec une attention qui lui ôtait presque la faculté de respirer. Elle était naturellement curieuse et sentit immédiatement le plus vif désir de regarder dans ce puits dangereux. Se dérobant à ses compagnes, elle chercha les ruines et, après avoir quelque temps erré au milieu d'elles, arriva à une sorte de bassin, près de la crête du mont, du côté escarpé qui borne la vallée du Darro. Sanchica s'aventura à monter sur le rebord de ce bassin et jeta un coup d'œil dans le trou. Elle vit qu'il était noir comme de l'encre, ce qui donnait l'idée d'une grande profondeur. Un frisson la saisit, elle recula, puis avança encore, et jeta un second regard sur le trou noir, recula de nouveau, revint une troisième fois. L'horreur même qu'elle éprouvait à chaque épreuve lui causait une sorte de délice. Enfin, elle fit rouler une grosse pierre et la lança par-dessus le bord. La pierre tomba longtemps sans faire aucun bruit. Tout à coup, elle frappa violemment contre une pointe du rocher et rebondit ensuite d'un côté à l'autre avec un roulement semblable au tonnerre. Puis il parut qu'elle tombait dans l'eau, mais à un très grand éloignement. Après quoi, l'on n'entendit plus rien. Toutefois, ce silence fut de courte durée. Il semblait que quelque chose se réveilla dans le fond de cet abîme. Un léger murmure, tel que le bourdonnement des abeilles, se fit d'abord entendre, et, augmentant par degrés, se changea en un bruit confus de voix, mêlé au cliquetis des armes, au son des cymbales et des trompettes d'une armée qui se serait préparée au combat dans les entrailles de la montagne. L'enfant se retira, glacé d'effroi, et se hâta d'aller retrouver ses parents et ses compagnes. Tout était parti. Le feu de joie s'éteignait et ses derniers anneaux de fumée se dessinaient à la clarté de la lune. Les feux qui avaient brillé sur les collines environnantes et dans la plaine avaient aussi disparu. Toute la nature semblait plongée dans le sommeil. Sanchica appela ses parents et quelques-unes de ses compagnes par leur nom, et ne reçut point de réponse. Elle descendit rapidement la colline, en suivant les murs du Generalife, et arriva dans l'avenue qui conduit à l'Alhambra. Là, elle se reposa sur un banc pour reprendre haleine. La cloche de la tour du guet de la forteresse sonnait minuit. Elle n'entendait autour d'elle aucun bruit, hors le gazouillement d'un petit ruisseau qui coulait sous les buissons. La douceur de l'atmosphère l'invitait au sommeil quand son œil fut attiré par une lumière qui brillait à quelque distance. Et bientôt, à sa grande surprise, elle vit une longue cavalcade de guerriers morts descendre la montagne et les avenues ombragées. Les uns étaient armés de boucliers et de lances, les autres de cimeterres et de haches. Et les rayons de la lune se réfléchissaient sur leurs cuirasses polies. Les chevaux caracolaient fièrement et couvraient leurs freins d'écume. Mais leurs pas ne faisaient pas plus de bruit que si leurs fers eussent été doublés en feutre et les cavaliers étaient plus pâles que la mort. Au milieu d'eux, on voyait une belle dame avec une couronne sur la tête et de longues tresses blondes entrelacées de perles. La housse de son palefroy était de velours cramoisi, brodée en or et traînée jusqu'à terre. Cependant, la belle dame paraissait désolée et ses yeux restaient fixés sur la terre. Alors parut un cortège de courtisans, magnifiquement vêtus en robes et en turbans de diverses couleurs. Au milieu d'eux avançait le roi Boabdil El Chico, monté sur un cheval Isabelle. Son manteau royal était tout couvert de pierreries et sa couronne resplendissante de diamants. La petite Sanchica le reconnut à sa barbe blonde et à sa ressemblance avec le portrait de ce prince qu'elle avait vu souvent dans la galerie du Generalife. Elle contemplait dans l'étonnement et l'admiration cette pompe royale à mesure qu'elle passait à travers les arbres. Et bien qu'elle sût que ces princes, cette cour, cette armée, étaient tous des êtres surnaturels, des objets d'enchantement, elle les regardait sans crainte par l'effet du talisman suspendu à son cou. Dès que la cavalcade fut passée, elle se leva, la suivit et observa qu'elle avançait sur la grande porte de justice qui se trouvait tout ouverte. Les vieux invalides en sentinelle à ce poste étaient tous étendus sur les bancs, ensevelis dans un sommeil profond et en apparence magique. Et le cortège fantasmagorique traversa le porche sans bruit, en saigne déployé et comme en triomphe. Sanchica se préparait à le suivre encore, mais elle aperçut une ouverture dans le sol de l'intérieur du porche qui paraissait conduire jusqu'au-dessous des fondations de la tour. Elle entra dans cette ouverture et fut encouragée à descendre jusqu'au fond en voyant des marches grossièrement taillées dans le roc et, de loin en loin, un passage voûté, éclairé par une lampe d'argent qui répandait une odeur agréable. Elle s'aventura jusqu'en bas de l'escalier et se trouva dans une grande salle creusée dans le centre de la montagne, richement meublée à la mauresque et éclairée par des lampes d'argent et de cristal. Là, sur une ottomane, un vieillard en habit de mort, avec une longue barbe blanche, paraissait assoupi. Sa tête se balançait en avant et en arrière, et le bâton qu'il tenait dans sa main était prêt à lui échapper à chaque instant. À quelques pas de lui, une belle dame, habillée à l'ancienne façon espagnole, avec une couronne enrichie de diamants et des perles entrelacées dans ses cheveux, tirait des sons d'une douceur infinie en jouant sur une lyre d'argent. À cette vue, la petite Sanchica se ressouvint de l'histoire de la princesse Goth, retenue dans le centre de la montagne par un vieux magicien arabe qu'elle endormait par la puissance magique de sa musique. La dame montra une extrême surprise en voyant une mortelle dans cette salle enchantée. « Sommes-nous à la veille de la Saint-Jean ? » dit-elle. « Oui, » répondit Sanchica. Alors le charme peut être suspendu pour cette nuit. Viens, mon enfant, ne crains rien. Je suis chrétienne comme toi, bien que je sois retenue ici par la force d'un enchantement. Touche mes chaînes avec le talisman que je vois suspendu à ton cou, et pendant quelques heures, je serai libre. » En parlant ainsi, elle ouvrait sa robe et montrait à Sanchica une large bande d'or qui ceignait sa taille et une chaîne de même métal par laquelle elle était attachée au plancher. L'enfant, sans hésiter, appliqua la petite main de G sur la bande d'or et la chaîne tomba immédiatement à terre. Au bruit qu'elle fit, le vieillard s'éveilla et commençait à se frotter les yeux. Mais la dame parcourut de ses doigts légers les cordes de la lyre, et il retomba dans son premier assoupissement, sa tête allant et venant, et son bâton vacillant dans sa main. « À présent, dit la dame, touche ce bâton avec la main de G. » La petite fille obéit. Le bâton échappa des mains du vieillard et celui-ci parut s'endormir tout à fait sur l'ottomane. La dame y posa doucement sa lyre contre la tête du magicien et, faisant vibrer les cordes dans son oreille, « Ô puissant esprit d'harmonie, dit-elle, retiens ces sens enchaînés jusqu'au retour de l'aurore. Maintenant, suis-moi, mon enfant. Et tu verras l'Alhambra tel qu'il était au jour de sa gloire. Car tu possèdes un talisman qui révèle tous les enchantements. » Sanchica suivit la dame en silence. Elles passèrent de la salle souterraine sous le porche de la porte de justice et de là dans la cour des citernes. Cette grande esplanade était couverte de soldats morts, à pied et à cheval, rangés en bataillons, leurs enseignes déployées. Des gardes du roi se tenaient aux portes, avec des files de noirs africains, le cimeterre nu à la main. Pas un ne proférait un seul mot, et Sanchica passa devant eux sans crainte avec sa conductrice. Lorsqu'elles entrèrent dans le palais, dans lequel la petite fille avait été élevée, la surprise de celle-ci augmenta encore. La lune répandait sur les salles, les cours, les jardins, une lumière presque aussi brillante que le jour, et les montrait sous un aspect bien différent de celui qu'ils offraient ordinairement. Au lieu d'étoiles d'araignées qui couvraient les murailles, on voyait des tentures de damas. Les dorures et les couleurs des arabesques avaient repris leur éclat et leur fraîcheur. Des divans, des ottomanes, brodés en perles, garnissaient les salons depuis si longtemps démeublés, et toutes les fontaines jouaient. De même, les cuisines étaient en pleine opération. Des cuisiniers fantastiques préparaient des ombres de ragoûts, apprêtaient des fantômes de poulets et de perdrix. Des valets allaient et venaient portant des plats d'argent couverts de mets délicieux. La cour des lions était encombrée de gardes, de courtisans, d'alfaquis, comme dans les beaux temps des morts. Dans le salon du jugement, Boabdil était assis sur son trône, entouré de sa cour, et tenait pour une nuit l'ombre d'un sceptre. Malgré le mouvement continuel de cette multitude, l'on n'entendait ni le son d'une voix, ni le bruit d'un pas. Rien n'interrompait le silence de la nuit, excepté la chute des eaux dans le bassin. La petite Sanchica suivait les pas de son guide, sans éprouver la moindre crainte, mais muette d'étonnement. Enfin, après avoir parcouru tout le palais, elles arrivèrent à un portail, conduisant au passage voûté au-dessous de la tour de Comares. De chaque côté du portail, on voyait une figure de nymphe en albâtre. La tête de ces deux statues était tournée de côté, et l'une et l'autre semblaient regarder le même point dans l'intérieur de la voûte. La dame enchantée s'arrêta et fit signe à l'enfant d'approcher. « En ce lieu-ci, dit-elle, est un trésor caché que je veux te révéler pour récompenser ta confiance et ton courage. Ces discrètes statues veillent sur ce trésor qu'un roi mort a mis dans les anciens temps sous leur garde. Dis à ton père de creuser la terre à l'endroit où se dirigent les yeux de ces figures. Il y trouvera ce qui le rendra plus riche qu'aucun habitant de Grenade. Toutefois, tes innocentes mains pourront seules, à l'aide du talisman, enlever le trésor. Recommande à ton père d'en user sagement et d'en consacrer une partie à faire dire des messes pour ma délivrance de ce profane enchantement. » Quand la dame eut achevé ce discours, elle conduisit l'enfant au petit jardin de l'Indaraxa qui touche la voûte des statues. Les rayons de la lune tremblaient sur les eaux de la fontaine solitaire et répandaient une lueur douce sur les citronniers et les orangers. La belle dame cueillit une branche de myrte et en fit une guirlande qu'elle plaça sur la tête de l'enfant. « Ceci te rappellera, dit-elle, le secret que je t'ai révélé et servira en même temps à prouver la vérité de ma révélation. Mon heure est venue, il faut que je rentre dans le salon enchanté. Ne me suis pas, il pourrait arriver malheur. Adieu, ressouviens-toi de ce que je t'ai dit, et n'oublie pas les messes pour ma délivrance. » En parlant ainsi, la dame entrait dans un passage obscur qui aboutit au-dessous de la tour de Comares et disparut. Un coq chanta dans les chaumières au-dessous de l'Alhambra. Une raie de lumière pâle se montra sur les montagnes à l'Orient. Un léger vent s'éleva. Un son à peu près semblable à celui des feuilles sèches en automne se fit entendre dans les cours et les corridors, et les portes se fermèrent, les unes après les autres, à grand bruit. Sanchica retourna dans les salles qu'elle avait laissées, peu d'instants auparavant, remplies par cette multitude d'ombres. Mais Boabdil et sa suite fantastique, tout avait disparu. La lune éclairait encore cet appartement désert et dépouillé de sa splendeur passagère. Les crevasses, les toiles d'araignées avaient reparu sur les murs. Les chauves-souris voltigeaient à la lueur incertaine de la fin de la nuit et les grenouilles coassaient dans le vivier. Sanchica se hâta de se rendre à l'escalier qui menait à l'humble réduit de sa famille. La porte en était ouverte comme de coutume, car Lope Sanchez était trop pauvre pour avoir besoin de verrous et de barres. L'enfant gagna sans bruit sa couchette, et, mettant la guirlande de myrte sur son chevet, elle s'endormit bientôt profondément. Quand la famille fut éveillée, la petite Sanchica conta à son père ce qui lui était arrivé. Mais Lope Sanchez traita le tout de chimère, dit à sa fille qu'elle avait rêvé et se moqua de sa crédulité. Il se rendit à son ouvrage et n'était pas depuis une minute au jardin quand l'enfant courut à lui, presque hors d'haleine, en criant « mon père, regardez la guirlande de myrte que la dame enchantée a mise sur ma tête !» Lope Sanchez regarda et fut émerveillée, car la tige de myrte était d'or pur, et chaque feuille était une belle émeraude. Comme il se connaissait peu en pierres précieuses, il ignorait la valeur précise de la guirlande. Mais il en savait assez pour être assuré qu'elle était d'un grand prix et de matériaux plus substantiels que ceux dont les rêves se composent ordinairement. Son premier soin fut d'enjoindre à sa fille le secret le plus absolu sur tout cela. À cet égard, cependant, il pouvait être tranquille, car elle avait une discrétion bien au-dessus de son âge et de son sexe. il s'empressa d'aller à la voûte sous laquelle se trouvaient les deux nymphes d'albâtre. Il remarqua que leurs têtes étaient en effet tournées vers l'intérieur du vestibule et leurs regards fixés sur le même point. Lope Sanchez admira beaucoup cette ingénieuse invention pour garder un secret. Il tira une ligne qui partait des yeux des statues, fit un point sur la muraille à l'endroit où cette ligne aboutissait et se retira. Cependant, toute la journée, Lope Sanchez fut distrait et soucieux. Il ne pouvait s'empêcher d'aller voir, au moins de loin, les deux statues et mourait de peur que le secret ne fût découvert. Chaque pas qu'il entendait approcher de cette place le faisait frémir. Il aurait donné beaucoup pour que les nymphes tournassent la tête dans un autre sens, oubliant qu'elles se tenaient ainsi depuis des siècles, sans que personne eût deviné qu'elles regardaient un trésor. « Que le ciel les confonde, elles vont tout découvrir, » pensait-il. Aussi, qui s'est jamais avisé d'un pareil moyen pour garder un secret? Alors, entendant quelqu'un approcher, il s'esquivait, de peur d'éveiller lui-même quelques soupçons, en rôdant ainsi autour de la place mystérieuse. Puis il revenait doucement, examinait de loin si chaque chose était à la même place. Mais la vue des statues excitait de nouveau son indignation. Les voilà toujours regardant, où elles ne devraient pas regarder. Maudites statues, elles sont bien de leur sexe. N'ayant point de langue pour babiller, leurs yeux leur servent au même usage. Enfin, à son grand soulagement, cette longue et inquiète journée se termina. Le son des pas ne retentissait plus dans les salles de l'Alhambra. Le dernier étranger venait de passer le seuil du grand portail qu'on avait barré et verrouillé. Et la chauve-souris, la grenouille, le hibou reprenaient leurs exercices nocturnes dans ce palais désert. Toutefois, Lope Sanchez attendit que la nuit fût avancée avant de s'aventurer avec sa jeune fille jusqu'à la salle des deux nymphes. Il les trouva regardant aussi mystérieusement que jamais la place du dépôt. « Avec votre permission, gentille dame, » dit Lope Sanchez en passant au milieu d'elle, « je vais vous décharger du secret qui doit vous paraître bien pesant depuis 2 ou 3 siècles. » Il se mit à l'œuvre sur la partie de la muraille qu'il avait marquée et découvrit bientôt un enfoncement dans lequel étaient 2 grands vases de porcelaine. Il essaya de les tirer de leur cachette, mais ils restèrent immobiles jusqu'à ce que l'innocente main de l'enfant les eût touchés. Avec son aide, le jardinier les délogea de leur niche et trouva, à sa grande joie, qu'ils étaient pleins d'or mauresque, mêlés à des bijoux et à des pierres précieuses. Avant le jour, ils étaient transportés dans la chambre de Lope, qui laissa les statues gardiennes avec leurs yeux fixés sur la muraille vide. Voilà donc l'honnête Sanchez devenu subitement riche. Mais les richesses, comme il arrive toujours, amenèrent avec elles un monde de soucis qui lui avait été jusqu'alors inconnu. Comment ferait-il pour mettre son bien en sûreté? Comment pourrait-il seulement en jouir sans exciter le soupçon? Pour la première fois de sa vie, la crainte des voleurs entra dans son esprit. Il remarquait avec terreur combien son habitation était peu sûre et se mit à barricader portes et fenêtres. Cependant, malgré ses précautions, il lui fut impossible de dormir tranquille. Sa gaieté l'abandonna tout à fait. Plus de bons mots, plus de chansons. Ses voisins ne le reconnaissaient pas, et il devint l'être le plus triste, le plus malheureux de l'Alhambra. Son changement fut remarqué. On le plaignit, mais l'on commença à s'éloigner de lui en supposant qu'il était sur le point de tomber dans la misère et pourrait se trouver dans le cas de demander quelque secours. La femme de Lope Sanchez partageait son anxiété, mais elle avait des consolations spirituelles. Nous avons oublié de dire que l'honnête jardinier, étant un petit homme assez inconsidéré, sa prudente épouse avait coutume de consulter, dans toutes les affaires un peu graves, son confesseur Fray Simon, du couvent des Franciscains de l'Alhambra. C'était un moine robuste, aux larges épaules, à la barbe bleue, à la tête ronde, qui confessait la moitié des matrones du voisinage, sans compter qu'il était en grande vénération dans plusieurs monastères de religieuses où ses consolations spirituelles étaient payées en confitures exquises, en biscuits délicats, de la fabrique des sœurs, accompagnés de vins de choix ou de liqueurs fortement épicées, reconnues comme d'excellents restaurants après les jeûnes et les vigiles. Fray Simon ne remplissait pas sans fatigue ses diverses fonctions. Sa peau huileuse reluisait au soleil quand il montait la colline de l'Alhambra par un jour d'été à la brûlante ardeur de midi. Cependant, il avait beau fondre, comme l'on dit, sous le harnais, l'austérité de son ordre l'empêchait de détacher la ceinture de corde qui serrait sur ses reins sa robe de bure. Les paysans ôtaient leurs chapeaux avec respect à ce miroir de piété, et les chiens eux-mêmes flairaient de loin l'odeur de sainteté que répandaient ses vêtements et le saluaient de leurs aboiements à son passage. Tel était Frère Simone, le conseiller spirituel de la grande jardinière. Et comme le confesseur d'une femme de sa classe est en général son confident, celui-ci apprit bientôt de sa pénitente le secret du trésor. Le franciscain ouvrit de grands yeux et une grande bouche en écoutant ce récit, et se signa une douzaine de fois. Après quelques moments de réflexion, « Fille de mon âme, dit-il, sache que ton mari a commis un double péché, contre le roi et contre l'Église. Le trésor dont il s'est ainsi emparé, étant trouvé sur les domaines royaux, appartenait au roi. Mais comme il se compose d'objets qui viennent des infidèles, et qu'il l'a été, pour ainsi dire, tiré des griffes de Satan, il devait être consacré à l'Église. Cependant, les choses peuvent encore s'arranger. Apportez-moi la guirlande de myrte. » Quand le bon père l'eut sous les yeux, ses yeux brillèrent encore plus qu'à l'ordinaire, en observant la grosseur et la beauté des émeraudes. « Comme cette guirlande, dit-il, est le premier fruit de la découverte, il convient qu'il soit employé à de pieux objets. Il sera suspendu en offrande votive devant l'image de saint François dans notre chapelle. Et je prierai cette nuit même ce grand saint pour que votre mari puisse rester paisible possesseur de votre fortune par l'intercession de notre bienheureux patron. » La bonne dame fut ravie de faire sa paix avec le ciel à des conditions si raisonnables. Et le moine, mettant la guirlande sous sa robe, s'achemina d'un pas lent et mesuré vers son couvent. Quand Lope Sanchez rentra au logis, sa femme lui conta ce qui venait de se passer. Il se fâcha très sérieusement, d'autant plus que la dévotion de la dame lui paraissait depuis longtemps excessive, et que les visites fréquentes du capucin ne lui plaisaient nullement. « Femme, dit-il, qu'as-tu fait? Ton bavardage peut tout perdre. » Quoi? S'écria la bonne femme. Voudriez-vous m'empêcher de décharger ma conscience dans le sein de mon confesseur? Non, ma femme, confessez vos propres péchés autant que vous voudrez. Mais à l'égard de ce trésor déterré, si c'est un péché, c'est moi qui l'ai commis, et je vous jure que ma conscience n'en est pas moins légère. Toutefois, les plaintes et les reproches étaient inutiles. Le secret était dit et ne pouvait pas plus être repris que l'on ne peut retrouver les gouttes d'eau répandues sur le sable. Leur seule chance de salut était dans la discrétion du moine. Le lendemain, Lope Sanchez était au jardin quand on frappa doucement à sa porte. Et le frère Simon entra d'un air humble et modeste. « Ma fille, dit-il, j'ai prié Saint François avec ardeur, et il a entendu ma prière. Au milieu de la nuit, ce saint m'est apparu dans un rêve, mais il avait un visage irrité. « Comment oses-tu me prier de disposer ainsi des trésors des gentils, quand tu vois la pauvreté de ma chapelle ? Vas à la maison de Lope Sanchez, demande en mon nom une partie de l'or mauresque pour fournir mon grand hôtel de deux beaux chandeliers, et qu'il jouisse en paix du reste. » Au récit de cette vision, la bonne femme se signa avec effroi, et, lorsque le capucin eut cessé de parler, elle courut à la place secrète où Lope avait caché son trésor, remplit de pièces d'or une bourse de cuir et la remit au frère. Le pieux moine lui donna en retour assez de bénédictions pour l'enrichir, elle et toute sa postérité, si le ciel consentait à les confirmer. Puis, glissant la bourse dans sa manche, il croisa les mains sur sa poitrine et sortit d'un air de componction. Quand Lope Sanchez eut appris cette seconde donation à l'église, il fut prêt à perdre l'esprit. « Malheureux que je suis ! Criait-il. « Que vais-je devenir ? Je serai volé pièce à pièce, ruiné, enfin réduit à la mendicité !» Ce fut avec la plus grande difficulté que sa femme parvint à l'apaiser, en lui rappelant les richesses innombrables qui lui restaient. Et combien saint François s'était montré modéré en se contentant d'une si mince portion. Malheureusement, frère Simon avait un nombre prodigieux de pauvres parents à pourvoir, sans parler d'une demi-douzaine d'enfants orphelins à grosses têtes rondes qu'il s'était chargé d'élever. Il réitéra donc ses visites et sollicita tour à tour pour Saint-Dominique, Saint-André et Saint-Jacques. À la fin, Lope Sanchez, réduit au désespoir, pensa que s'il ne pouvait se mettre hors de la portée du Saint-Frère, il aurait des offrandes à faire à tous les saints du calendrier, et se détermina à battre en retraite la nuit suivante avec ce qui lui restait du trésor et à se rendre dans quelque autre partie du royaume. À cet effet, il acheta une forte mule et l'attacha dans un caveau obscur sous la tour des sept étages, précisément à la place d'où le Belludo, ou le fantôme de cheval sans tête, sort à minuit pour courir les rues de Grenade, poursuivi par une meute de chiens. Lope Sanchez avait peu de foi en cette histoire, mais il profita de la terreur qu'elle inspirait pour cacher sa fuite, sachant bien que personne n'oserait approcher de ce qu'on supposait l'écurie du spectre. Il envoya pendant la journée sa femme et sa fille à un village éloigné de la Vega avec ordre de l'attendre là. Et dès que la nuit fut un peu avancée, il porta son trésor sous la voûte, le chargea sur la mule, le prit par la bride, et descendit l'avenue avec précaution au milieu de l'obscurité. L'honnête Lope avait pris toutes ses mesures dans le plus grand secret, et n'en avait fait confidence à qui que ce fût au monde, hors à sa fidèle moitié. Cependant, soit par quelque révélation miraculeuse, soit autrement, frère Simon en eut connaissance. Le moine zélé, voyant ses trésors infidèles prêts à lui échapper, résolut d'y puiser encore une fois ou de s'emparer de la totalité, s'il était possible, pour le bénéfice de l'Église et de Saint-François. Dans cette vue, aussitôt que les cloches eurent sonné les prières pour les âmes du purgatoire, et que tout fut tranquille dans l'Alhambra, il sortit sans bruit de son couvent, et, descendant par la porte de justice, se cacha dans les massifs de rosiers et de lauriers qui bordent la grande avenue. Il y demeura comptant chaque quart d'heure sonné par la cloche du beffroi, et prêtant l'oreille aux cris lugubres des hiboux et aux aboiements éloignés des chiens des bohémiens qui habitaient les cavernes. Enfin, il entendit le pas d'un cheval et distingua, à travers l'obscurité profonde produite par l'ombre des arbres, un coursier qui descendait l'avenue. Le robuste frère se bavanait d'avance du bon tour qu'il allait jouer à l'honnête Lopé. Il s'était tapi comme un chat qui guette une souris, sa robe était retroussée et sa ceinture bien serrée. Et, s'élançant tout à coup du milieu des buissons, il mit une main sur l'épaule de l'animal, l'autre sur la croupe, fit une voltige qui aurait fait honneur au meilleur écuyer, et se trouva enfourché sur le dos de la bête. « Ah ah ! » dit le gros moine, « nous verrons qui de nous joue le mieux son jeu. » À peine avait-il achevé ces mots, que la prétendue mule commença à ruer, à se dresser sur ses jambes de derrière, et partit ensuite au grand galop. Le frère tentait vainement de l'arrêter. Elle bondissait de rochers en rochers, de taillis en taillis. L'habit du capucin était en lambeaux et volait au vent. Sa tête rasée reçut plus d'un rude coup des branches des arbres. Et son visage, plus d'une écorchure des buissons d'épines. Pour ajouter à sa terreur, il vit qu'une meute de six chiens le suivait en hurlant, et s'aperçut, mais trop tard, qu'il était monté sur le Beyudo. Ils allèrent ensemble un véritable train de diable, le long de la grande avenue, à travers la place neuve, dans le Zacatine et autour de la Viva Rambla. Jamais chasseur ni lévrier ne firent une course aussi désespérée, un bruit aussi infernal. En vain le moine invoqua tous les saints du paradis, et même la Sainte Vierge. Chacun des noms sacrés qu'il prononçait faisait l'effet d'un coup d'éperon sur le Beyudo et le faisait bondir à la hauteur des toits des maisons. Toute la nuit, le malheureux frère Simone fut emporté, en dépit de ses efforts, d'ici et de là, tant enfin qu'il n'y eut pas un os de son corps qui ne fût endolori. Et que sa chair fut écorchée, meurtrie à un point trop pitoyable pour le décrire. Enfin, le chant d'un coq annonça le retour du jour. À ce son, le spectre fit volte-face et reprit le chemin de la tour. Il fallut encore qu'il traversât la Viva Rambla, le Zacatine, la place neuve et l'avenue des fontaines, les six chiens ne cessant d'aboyer, de hurler, de sauter et de mordre les talons du moine épouvanté. Les premiers rayons de l'aurore paraissaient quand ils atteignirent la tour. Arrivé là, le fantôme fit un saut qui lança le frère, la tête en bas, à une distance prodigieuse, s'enfonça dans la voûte obscure avec la meute infernale, et le plus profond silence succéda à leurs horribles clameurs. Jamais tour plus diabolique fut-il joué à un saint moine. Cependant, un paysan qui se rendait de grand matin à ses travaux trouva l'infortuné frère Simone sous un figuier, au pied de la tour, mais tellement brisé et meurtri qu'il ne pouvait ni remuer ni parler. Il fut porté dans sa cellule avec tout le soin imaginable, et le bruit courut qu'il avait été attaqué et maltraité par des voleurs. Il se passa plusieurs jours avant qu'il pût recouvrer l'usage de ses membres. Toutefois, il se consolait en pensant que, si la mule chargée du trésor lui avait échappé, il avait, du moins, tirer une assez bonne part des dépouilles des infidèles. Son premier soin, dès qu'il eut la force de se mouvoir, fut de chercher sous son matelas, où il les avait cachés, la guirlande de myrte et la bourse de cuir. Quelle fut sa douleur en s'apercevant que la guirlande n'était, en effet, qu'une branche de myrte desséchée, et que la bourse ne contenait que du sable et des cailloux. Frère Simone, malgré tout son chagrin, eut le courage de se taire, pour ne point s'exposer à la risée publique et au châtiment que lui aurait infligé son supérieur, s'il eût trahi le secret de sa mésaventure. Ce ne fut que plusieurs années après, sur son lit de mort, qu'il révéla à son confesseur la course nocturne qu'il avait faite sur le Bayou d'Eau. On fut longtemps sans entendre parler de Lope Sanchez après sa disparition de l'Alhambra. Sa mémoire y était chérie comme celle d'un joyeux compagnon, et l'on craignait, d'après la tristesse qu'il avait montrée avant son départ mystérieux, que la misère n'en eût été la cause. Quelques années plus tard, un invalide de ses anciens amis, se trouvant à Malaga, fut renversé et faillit d'être écrasé par une voiture à 6 chevaux. La voiture s'arrêta. Un vieux seigneur, richement vêtu, avec une bourse à cheveux et l'épée au côté, en sortit pour secourir lui-même le pauvre soldat. Quel fut l'étonnement de ce dernier quand il reconnut dans ce caballero si magnifique sa vieille connaissance de l'Alhambra, Lope Sanchez, qui, à cette heure même, allait célébrer le mariage de sa fille Sanchica avec l'un des grands du royaume. La famille était rassemblée dans la voiture. On y voyait Dame Sanchez, qui était devenue aussi grosse qu'un tonneau, la tête couverte de plumes, le col, les bras, tous les doigts chargés de bijoux de prix. Dans une parure telle qu'on n'avait rien vu de semblable depuis la reine de Saba. La petite Sanchica, maintenant grande et jolie fille, aurait pu passer pour une duchesse, voire même pour une princesse, par ses grâces et sa beauté. Le marié était à ses côtés. C'était un petit homme, un peu grêle à la vérité, mais c'était une preuve de la noblesse de son sang. Un légitime grand d'Espagne n'ayant, généralement, pas plus de 4 pieds et demi de haut. Ce mariage avait été arrangé par la mère. Les richesses n'avaient pas gâté le cœur du bon Sanchez. Il soigna son vieux camarade chez lui pendant plusieurs jours, le fêta comme un roi, le mena au spectacle et aux courses de taureaux, aussitôt qu'il fut en état de sortir, et le renvoya à ses quartiers avec une bourse bien garnie, accompagnée d'une autre, qu'il était chargé de distribuer entre les anciens habitants de l'Alhambra. Lope dit toujours qu'un frère, mort très riche en Amérique, lui avait laissé en héritage une mine de cuivre. Mais les commères avisées de l'Alhambra soutenaient que tout ce bien ne lui était venu que d'avoir découvert le secret gardé par les deux nymphes d'albâtre. On a remarqué que ces deux statues si discrètes ont continué à regarder jusqu'au jour présent la même partie de la muraille, et toujours avec le même air de mystère. Ce qui fait supposer à plusieurs qu'il reste là quelque trésor caché, bien digne de l'attention des curieux entreprenants. Cependant, beaucoup d'autres, et particulièrement les femmes, considèrent ces figures avec une extrême vénération, comme des témoignages du fait que les femmes peuvent garder un secret.